Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est clair. Les chars russes entrent dans la ville de Mariupol. Mariupol, une ville qui comptait 400 000 habitants et qui est désormais détruite à 80%. L'armée russe qui bombarde désormais la capitale, Kiev. L'Info C'est clair est intitulé « Poutine peut-il raser Kiev ?» Nos invités, Bernard Guetta, vous êtes député européen, membre du groupe Renew Europe, vous êtes spécialiste de géopolitique et je précise que vous avez été correspondant à Moscou pour le journal Le Monde. Général Jean-Paul Paloméros, vous avez été chef d'état-major de l'armée de l'air, commandant suprême pour la transformation de l'OTAN. Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique au Figaro, vous avez également été correspondante en Russie. Je cite votre livre « Macron le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système », c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci de participer à cette émission en direct. Donc, bombardement cette nuit à Kiev. Un centre commercial a été entièrement rasé. Il n'y a plus qu'un cratère. Désormais, il y a de nombreux morts. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages d'habitants de Kiev qui ont été recueillis à la veille du week-end par Claire Vérov et Philippe Goldman.
Attaque sur ce quartier résidentiel dans le nord-ouest de Kiev, surprenant des dizaines d'habitants de cet immeuble. Il y a un mort. Hébétés, les résidents ne pensaient pas pouvoir être pris pour cible. Ici, c'est une école qui est touchée. Je ne comprends pas. Nos enfants ont l'habitude de se réfugier dans cette école. Pourquoi doivent-ils souffrir? À quoi pensaient les Russes?
C'est effrayant. J'espère juste que tout ira bien dans quelques mois.
Général Jean-Paul Paloméros, d'un point de vue purement tactique, militaire, quel est l'intérêt de cibler des écoles, de cibler un centre commercial? C'est délibéré apparemment, et on n'est vraiment plus dans les objectifs militaires là.
Là, vu la nature du centre en question, oui, on a du mal à imaginer que ce soit une erreur. Bon, je pense qu'on est dans le terrorisme pur et simple, aussi dans le crime de guerre d'ailleurs, caractérisé. Il semble qu'il y ait un objectif, c'est quand même de faire fuir les populations, terroriser, faire fuir les populations et continuer à entretenir cette pression sur les civils, mais aussi sur les militaires qui font tout ce qu'ils peuvent pour défendre cette ville.
Crime de guerre, Bernard Guetta, ça veut dire que il ne reculera devant plus rien maintenant, Vladimir Poutine. Il sait qu'il joue son va-tout avec cette offensive en Ukraine. Il n'y a pas de retour possible. Et la question qui est, on a vu Mariupol détruit à 80%. C'est une ville de plus de 400 000 habitants, Mariupol. Hein, c'est l'équivalent de Nice ou Toulouse. 80% des logements détruits. C'est envisageable de voir la même chose, d'imaginer la même chose à Kiev?
On ne peut malheureusement pas l'exclure. Militairement et politiquement en tout cas, Poutine a perdu. Militairement, on va voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Militairement, on peut gagner une bataille et perdre la deuxième. Mais politiquement, il a totalement perdu. Et c'est donc un animal blessé, acculé. Et un animal blessé et acculé, il n'y a rien de plus dangereux au monde. Il peut faire absolument n'importe quoi. Je dis bien absolument n'importe quoi. Et vous me permettrez un mot comme député européen. J'ai signé il y a une semaine avec beaucoup de mes collègues, en tout cas plusieurs de mes collègues, une lettre demandant qu'on arrête, nous les pays de l'Union européenne, immédiatement, dans l'heure, d'acheter le moindre mètre cube ou le moindre litre de pétrole à la Russie de M. Poutine. Et quand on voit ce qui s'est passé, ce qui continue de se passer à Mariupol, l'étau se resserrait maintenant sur Kiev. Quand on voit que M. Poutine vise, comme le général le disait, délibérément dans des crimes de guerre caractérisés, des hôpitaux, des écoles, des maisons de retraite, dans l'unique but de terroriser la population, de casser le moral du pays et d'amener l'Ukraine à se rendre. Mais on ne peut plus, on ne doit plus. C'est moralement indéfendable de continuer à donner un dollar à cet assassin. Je parle de M. Poutine, à cet assassin. Mais c'est politiquement extrêmement dangereux parce que nous devons le vaincre. Nous devons abattre cet homme
abattre, politiquement j'entends. Nous devons abattre cet homme avant qu'il n'ait mis toute l'Europe à feu et à sang. C'est intolérable.
En attendant, Isabelle Lasserre, les Occidentaux livrent des armes qui visiblement arrivent à bon port. Ça veut dire que les habitants de Kiev, ils sont terrés, ils savent qu'il va y avoir l'assaut et ils sont prêts à sortir de leur cave, armés. Et on va assister à quoi? Alors à des scènes de guérilla urbaine dans une capitale européenne?
Oui, alors pour l'instant, visiblement, les Russes ont prouvé qu'ils n'étaient pas si à l'aise que ça dans la guérilla urbaine. Par ailleurs, le Kiev n'est pas encore encerclé. Les Russes vont en avoir pour plusieurs semaines. Donc avant les scènes de guérilla urbaine, je pense malheureusement qu'il y aura une phase très dévastatrice de bombardements aériens. Et d'attaques et d'artillerie lourde.
Les Russes, on a dit que l'Ukraine, d'ailleurs Vladimir Poutine, que Kiev c'était le berceau de la Russie. Ça ne les gêne pas de bombarder leur propre berceau?
Alors, c'est plus
comme
que
si
ça.
On bombarderait Chartres.
C'est non seulement le berceau de la Russie, mais Poutine ne cesse de dire depuis au moins l'année dernière que l'Ukraine et la Russie sont un seul et même pays. Que l'Ukraine n'existe pas en tant qu'indépendant, que c'est un État artificiel et illégitime, et que ce sont les mêmes peuples. Et effectivement, en plus, dans l'histoire de l'Union soviétique, c'est vrai que les peuples sont mêlés. Et par exemple, il y a deux républiques dans l'ancienne Union soviétique qui ont fourni un grand nombre de responsables politiques au bureau politique. C'est la Géorgie et c'est l'Ukraine. Gorbatchev lui-même était à moitié ukrainien. Donc en fait, Vladimir Poutine a demandé à ses soldats d'aller tuer leurs frères. Ça explique aussi en partie pourquoi les conscrits ne sont pas du tout motivés. Ça explique aussi pourquoi à Kherson, les manifestants font reculer des camions et font reculer des chars. En fait, le problème, c'est évidemment, c'est un peuple très, c'est presque le même peuple. Ouais. Mais la différence, elle est, et c'est une différence considérable, c'est que depuis la chute du mur, les deux peuples et les deux pays ont évolué de manière opposée. C'est-à-dire que les Russes sont restés sous une autocratie qui aujourd'hui est devenue une dictature, avec une restriction des libertés, un enfermement dans l'histoire, un révisionnisme historique. Et les Ukrainiens ont choisi de vivre en démocratie et de se rapprocher de l'Europe. Donc c'est une différence politique qui aujourd'hui fait qu'il y a un abîme entre ces deux.
Et une incompréhension. Voilà. Alors avant de revenir sur les difficultés de la progression de l'armée russe, je voudrais juste qu'on retourne à Marioupol. Parce que les habitants de Marioupol, je l'ai dit, plus de 400 000 habitants, ont fui la ville. Mijad Kiat et Valérie Lucas ont interviewé des réfugiés de Marioupol qui sont allés à Lviv. Et vous allez voir, ils montrent leur ville, leur chez-eux, complètement rasée, complètement détruite. Regardez ce sujet.
Elles viennent de traverser tout le pays. Marioupol, à 1300 km de là, est assiégé par les troupes russes. Ici à Lviv, Loubov et sa fille Vala, 10 ans, peuvent à nouveau manger à leur faim.
Cela fait 20 jours que l'on n'a pas mangé de pain. Il n'y avait pas de pain, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de réseau. Marioupol n'existe plus.
Dans la cantine de l'université, des dizaines de lits disposés. C'est ici qu'elle dormira ce soir. Au moment du bombardement à Marioupol, Loubov n'était pas chez elle. Elle nous montre les photos de sa maison dévastée.
Il n'y a plus que des cendres. Voici ce qu'il reste de notre garage. Il n'y a pas de corridor humanitaire. On est parti malgré la peur et les risques. Beaucoup de voitures avec des femmes et des enfants sont mitraillées.
Malgré la guerre, elle ne souhaite pas quitter le pays. Comme elle, 550 réfugiés sont hébergés dans cette université.
Général Palomeros, quel est l'intérêt encore militaire de prendre une ville rasée, d'arriver, mettre sur des ruines, sur un champ de ruines?
Mais Marioupol, c'est tout un symbole. En 2014, Poutine s'était arrêté aux portes de Marioupol sous la pression et disons qu'il n'était pas allé jusqu'au bout de son œuvre. Donc là, c'est évidemment l'accès sur la mer d'Azov, c'est ce contrôle de toute cette bande sud, d'accès aux mers chaudes, etc. Et puis, je crois que maintenant, les deux camps sont pris, finalement, les Russes, pour obtenir une victoire sans condition et pouvoir l'exhiber, en quelque sorte. Poutine n'a pas eu de vraie victoire jusqu'à présent. Et les Ukrainiens, dans leur défense jusqu'à la mort de leur pays.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce que la question, pardon, mais je vais peut-être choquer, mais moi, il y a un moment, je me dirais, mais drapeau blanc, quoi. J'arrête. Paris a été ville ouverte face à l'avancée des... Est-ce qu'il y a un moment, la question de dire, on arrête le massacre ? Côté ukrainien, j'entends.
Puisque... Non, les Ukrainiens ne veulent pas capituler d'un pouce. Ils considèrent qu'ils sont dans un combat pour la survie et qu'il faut aller jusqu'au bout. C'est leur attitude, c'est l'attitude du président Zelensky. Elle est très respectable et ils font ça avec un courage extraordinaire. Ça a un prix, évidemment.
Un champ de ruines.
Oui. Mais vous savez, ce n'est pas seulement... Le président Zelensky qui refuse. Non, non, mais je dis sur la question. Qui refuse de
capituler.
De déposer les armes, comme on dit. De déposer les armes. C'est toute la population. Regardez.
Mais c'est incroyable qu'au 21e siècle, on pensait qu'au 21e siècle, pardon, mais ces combats de corps à corps, de guérilla urbaine, c'était impensable dans une capitale européenne. Et la nature humaine est ainsi faite que, oui, on se dit, on a beau être au cœur de l'Europe, on prend les armes.
La nature humaine ou la nature de M. Poutine. Parce que, véritablement, s'il y a un responsable, et un seul, il n'y en a pas deux, il y en a un, c'est Vladimir Poutine. Parce que M. Poutine se prend pour la résurrection du tsar de la Russie impériale. Ouais. C'est tout. Alors, il veut reconquérir les territoires perdus.
On va revenir sur les motivations de Vladimir Poutine, mais j'étais surpris de la réaction héroïque, presque en duel, du peuple ukrainien qui refuse de capituler.
C'est une guerre patriotique. C'est leur guerre patriotique. Les Russes ont eu leur guerre patriotique pendant la Deuxième Guerre mondiale quand ils ont combattu contre les nazis. Les Ukrainiens se battent aujourd'hui pour leur guerre patriotique, la constitution de leur nation. Et M. Vladimir Poutine a réussi à les souder tous ensemble, y compris d'ailleurs les populations russophones qui étaient davantage tournées vers la Russie que vers Kiev, qui aujourd'hui, d'un seul homme, se battent pour constituer la nation ukrainienne et pour lui donner... Alors nous, évidemment, on se dit, mais comment ça, au XXIe siècle, les gens se battent? Mais nous, on est libres.
Parce qu'on a arrêté les services militaires imaginant que c'était impensable, ces combats au corps à corps.
D'abord, on s'est complètement planté en pensant qu'on vivait, qu'on allait vivre des dividendes de la paix pendant 50 ans et qu'on était dans un monde de bisounours post-guerre. Donc on a fermé les yeux sur ce qui se passait à l'Est. Et ensuite, nous, on vit dans notre confort, on vit en démocratie, on est libre, on se demande... Mais enfin, ils luttent pour leur liberté. Pour leur liberté, c'est...
Général Palomeros, Bernard Guetta disait à l'instant, on a peut-être eu tort d'arrêter le service militaire, mais c'est vrai que ça questionne. On voit que là, les Ukrainiens, ils doivent rapidement apprendre le maniement des armes pour défendre leur maison. Ça interroge sur la décision qu'a prise la France en 1997 de supprimer le service militaire ?
Oui et non. On pourrait revenir longuement sur le service. Mais l'idée de...
Prendre les armes pour défendre sa maison.
De prendre les armes. Mais c'est plutôt l'esprit même de défense qui doit être, je pense, revu et redynamisé dans notre pays. Et c'est sans doute une des leçons de ce conflit. C'est qu'on comprenne ce que c'est que la défense, qu'on en parle dans notre éducation... Et puis qu'on trouve des moyens. Alors, il y a eu le service national universel, c'est peut-être quelque chose comme ça. Très difficile de ressusciter le service militaire en tant que tel. Et d'ailleurs, ça ne correspondrait peut-être pas à l'objectif. Donc, il faut trouver un juste équilibre qui engage la jeunesse et qui lui explique qu'un citoyen, ça a beaucoup de droits et ça a aussi des devoirs.
En attendant, les chars russes sont entrés dans la ville de Mariupol et ce à quoi ils ne s'attendaient pas.
Dans les faubourgs.
Dans les faubourgs. Ils sont pris pour cible. Et vous allez voir, j'allais dire, ces pauvres soldats russes, ils sont pourchassés et ils sont obligés de fuir et de sortir de leurs chars qui sont anéantis par la résistance ukrainienne. Sujet de Sylvain Leken.
Ce char russe avance dans cette rue de Mariupol. La scène est filmée par un groupe nationaliste ukrainien. Le char est touché une première fois, puis une seconde. Quelques instants plus tard, un deuxième char est pulvérisé. Ce soldat en bas de l'image sort en courant, les Russes battent en retraite. Nouvelle explosion, le militaire s'éloigne en rampant. Les forces ukrainiennes diffusent ces images d'embuscades incessantes sur les tanks russes, dans les rues de Marioupol.
Bernard Guetta, ils doivent être déboussolés, les soldats russes, parce qu'on leur avait annoncé une guerre de libération. Et ils se retrouvent à...
Ils ne comprennent pas. Vous savez, ça me rappelle beaucoup les bombes en plus. C'est hélas le visage effaré des soldats soviétiques envahissant Prague en 68. L'été 68. L'été 68. Soudain, ils voyaient une population qui leur disait mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi? Pourquoi êtes-vous là? Et ils ne savaient pas répondre et ils ne comprenaient pas. Et vous savez, M. Poutine, là, commet deux crimes. Il commet un crime, évidemment, contre la nation ukrainienne, mais il en commet un aussi grand contre la nation russe qu'il défigure en ce moment, dont il envoie les enfants se faire tuer pour sa mégalomanie à lui, pour sa folie historique. Je vous disais tout à l'heure, cet homme est dangereux pour la paix de l'Europe, mais il est dangereux aussi pour son propre pays. Il est dangereux aussi pour son propre pays, qu'il envoie dans le mur, dont il envoie l'économie dans le mur, dont il envoie l'image internationale dans le mur. Et qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois ou 4 mois quand la Russie subira de plein fouet le poids des sanctions économiques qui sont très lourdes. Cet homme est un danger pour tout le monde et pour la Russie en premier.
Isabelle Lasserre, les soldats russes, est-ce qu'on a une idée du moral des troupes? Ça fait 3 semaines qu'ils sont sur le terrain. Ils ne sont pas bien accueillis. Et ils ne s'attendaient pas à ça.
Alors les troupes, oui, les conscrits et les troupes ont un moral assez bas, il y a eu des défections, certains refusent d'être déployés, d'autres ne savaient pas pourquoi ils étaient là, donc le moral est assez bas, hein. La guerre c'est aussi le choc des volontés, et la volonté elle est du côté ukrainien, et elle n'est pas du côté russe. Maintenant il ne faut pas aller trop vite en besogne et en déduire que la Russie va perdre la guerre, parce que... En Tchétchénie, c'était passé exactement la même chose et ça n'a pas empêché Vladimir Poutine de gagner la guerre. Après, il y a d'autres troupes. Le faible moral russe explique pourquoi Vladimir Poutine, entre autres, a dû faire appel à d'autres troupes, hein, des troupes venues de Syrie, des troupes venues de Tchétchénie, à des combattants étrangers, en fait, qui ont beaucoup moins de...
D'état d'âme, eh ben, je vous propose, on les regarde.
Ce sont des mercenaires.
Ce sont les soldats russes, hein, des soldats russes, mais qui sont tchétchènes, qui ont une réputation épouvantable et qui, vous allez le voir, tirent des rafales sur les façades d'immeubles à Marioupol sur fond de chants islamistes. Regardez ce sujet de Sylvain Lequen et Anne-Claire Poignard.
Dans les rues, c'est un déluge de feu. L'armée russe qui encerclait Marioupol a donné l'assaut. Les bataillons tchétchènes qui filment la scène sont entrés dans la ville. Des troupes rompues au combat de rue. Les Ukrainiens confirment d'importants affrontements.
Il y a encore des poches de résistance. Les habitants cachés dans les abris se rendent. On va évacuer tout le monde.
Alors, général Jean-Paul Paloméros, les Tchétchènes, ils ont peut-être moins d'état d'âme à les combattre. Parce que pour les Russes, c'était un peuple frère, les Ukrainiens. Là, les Tchétchènes, il y a un peu plus de distanciation, il y a moins d'affect.
C'est sûr que quand Poutine avait dit qu'il n'envoyait pas de conscrits, finalement, on a démontré qu'il avait envoyé des conscrits. Évidemment, c'est un de ses soucis, ça, le moral des troupes. Je pense que chez les cadres, ils sont galvanisés parce qu'ils sont, ils sont dans la mer Russie. Enfin, il a réussi à les convaincre.
On a vu ça dans l'histoire.
Hein, c'est pas la première fois, malheureusement.
Ça fait près d'un mois maintenant, hein, le conflit. Quelle qualification donneriez-vous à cette offensive militaire? Est-ce qu'elle est réussie? Est-ce qu'elle est plus compliquée que prévu? Est-ce qu'elle est embourbée, comme certains le disent?
Non, c'est pas une réussite. Il y a eu Poutine a surestimé ses capacités, il a sous-estimé les Ukrainiens, il pensait que l'Ukraine allait tomber comme un château de cartes. Il n'a pas eu conscience que l'Ukraine avait goûté à la liberté, à la démocratie et que les Ukrainiens étaient attachés à leur pays, dont il dit qu'il n'existe pas, en gros. Donc c'est ça l'enjeu. Mais la force russe est colossale, ils ont la masse, j'imagine que les usines doivent tourner à plein. Il y a un moment où peut-être ça s'arrêtera. Et c'est vrai que c'est peut-être la guerre économique qui peut réussir à freiner le mouvement. Mais autrement, le but de Poutine est tellement élevé et tellement démoniaque qu'on ne voit pas d'issue si ce n'est au mieux une partition de l'Ukraine. Enfin, il ne peut pas accepter auprès de lui, auprès de son pays maintenant, une Ukraine indépendante, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça l'enjeu. Et l'Ukraine, et personne ne peut l'aider, enfin pas l'aider directement. C'est ça qui est terrible. L'Ukraine est toute seule.
Bernard Guetta, on a dit que le peuple ukrainien avait envie de se battre, n'avait aucunement envie de baisser les armes, hein, c'est sa guerre patriotique. De l'autre côté, Vladimir Poutine, quels sont ses objectifs de guerre? À partir de quand on dirait, bon, bah, maintenant j'accepte un cessez-le-feu? Est-ce qu'on a une idée de ce qu'il...
Je suis absolument d'accord avec le général, je pense que politiquement, il ne peut plus reculer. Maintenant, son objectif, il est très clair. Il considère que la partition, non pas de l'Union soviétique, mais de l'Empire russe, celui des tsars, l'Empire séculaire, est une faute commise, vous savez par qui dans son esprit? C'est extraordinaire. Il dit commise par Lénine, commise par les communistes, parce qu'il reproche aux communistes, et c'est vrai, d'avoir divisé l'ancien empire en république fédérée dans l'Union soviétique, naturellement, mais en république qui était effectivement nationale, géorgienne, ukrainienne, etc., qui avait une identité nationale et constitutionnellement, dans la constitution soviétique, théoriquement parlant, naturellement, les républiques avaient le droit de sortir. Elles ne pouvaient pas l'exercer, ce droit, du temps de Staline, etc. Mais du temps de Gorbatchev, du temps de la perestroïka, elles ont commencé à exercer un pouvoir qu'elles avaient, constitutionnellement parlant. Et c'est ça que M. Poutine ne tolère pas. Quand il dit « l'Ukraine n'existe pas », entendons bien ce qu'il dit. Il dit que l'Ukraine ne doit pas exister comme État indépendant. Ouais. Parce que l'Ukraine, c'est un morceau de l'Empire.
Eh ben, justement, Bernard Guetta, on a un sujet, on avait prévu de le passer un peu plus tard, mais vous nous l'apportez sur un plateau. Qu'y a-t-il dans la tête de Vladimir Poutine? Veut-il recréer l'URSS de son enfance?
L'Empire.
Ou l'Empire qu'il a appris à l'école? On retourne sur ce sujet dans la tête de Vladimir Poutine, Maryse Burgot et Alexis Gaucher.
Une image abîmée, presque floue, mais une phrase prémonitoire d'une grande clarté. Vladimir Poutine explique dès 2005 que la dissolution de l'ex-URSS fut une erreur historique.
Il faut reconnaître que la dislocation de l'Union soviétique a été la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle.
Carte sur table vous raconte ce maître du Kremlin nostalgique de la Grande Russie au point de rêver en quelque sorte de la reconstituer. Voilà ce qu'étaient les limites de l'URSS avant 1991 à l'est de cette ligne noire. Et voici les territoires perdus après la chute du mur de Berlin et la dislocation du bloc soviétique. À ce moment-là, Vladimir Poutine est un jeune officier du KGB, un pur produit de l'ex-URSS à l'époque de sa toute-puissance. Impossible donc pour lui d'accepter ces nouvelles cartes et surtout cette marche de l'OTAN vers l'Est. Ces pays de l'ex-bloc soviétique qui rejoignent l'Alliance Atlantique sous influence américaine et européenne. Vladimir Poutine se forge alors une conviction.
Il y a toute une composante idéologique autour de la notion de monde russe et de l'idée que les différents peuples slaves qui constituaient l'ancien empire russe sont en fait un seul et même peuple et devraient être réunis au sein d'une même entité. Donc ça peut être ça son projet.
Une doctrine qui va pousser le maître du Kremlin à annexer des territoires et à en placer d'autres sous son influence. En Géorgie, avec ses deux entités russophones, annexion aussi de la Crimée, reconnaissance des républiques de Donetsk et Louhansk dans le Donbass, et depuis 1991, cette Transnistrie pro-russe en territoire moldave. Tout cela au nom des peuples russophones.
Gloire au peuple victorieux.
L'invasion de l'Ukraine, c'est l'étape suivante. Vladimir Poutine veut y installer un gouvernement pro-russe, une façon pour lui de reconstituer un mur entre l'OTAN et la Russie. C'est l'objectif de Vladimir Poutine.
Isabelle Lassa, il y a une nostalgie de l'Empire en Russie?
Oui, alors moi, je pense qu'il y a une nostalgie à la fois de l'URSS et à la fois de l'Empire, parce que Poutine avait dit que la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, On s'en souvient tous, c'était
la chute de l'URSS.
Maintenant, au niveau de sa guerre territoriale, il s'intéresse plutôt à l'Empire. C'est-à-dire que, et notamment, alors, quand il convoite Odessa, rappelons qu'Odessa a été fondée par Catherine II, c'est un joyau de l'Empire. Et il y a une vraie volonté de reconstituer l'Empire russe. Alors après, il y a des sous-parties dans le programme, ou en tout cas dans les discours de Vladimir Poutine, parce que tout ça est marqué dans ses discours. Hein. Et le cœur du monde russe pour lui, c'est trois pays, c'est la Biélorussie, la Russie et l'Ukraine. Après,
il y a des parties russophones en Moldavie, on l'a vu.
Alors
en Lettonie, on l'a vu.
Oui, la Transnistrie fait partie de cette ceinture sud et est. Qui est en fait, là pour le coup, c'est vraiment la ceinture de l'Empire, hein, toute une zone, toutes ces villes qui étaient symboles de l'Empire, mais il y a aussi de l'URSS cette volonté de soumettre toutes les républiques qui sont autour de manière différente. Alors la Biélorussie, c'est très facile parce que Loukachenko est à sa botte. La Géorgie, il faut parfois envahir un petit bout pour mettre ensuite un gouvernement à la botte. Au Kazakhstan, il faut intervenir. Donc il y a les deux. Voilà, il n'y a pas l'idéologie de l'URSS.
Mais il y a le souvenir d'un empire qui a été démantelé un peu trop rapidement.
Il ne peut pas recréer le goulag, par exemple.
Un peu abusivement. Général Jean-Paul Palomeras, est-ce qu'il n'y a pas aussi une nostalgie de la puissance militaire d'une époque où l'URSS était respectée? Je dis ça parce qu'il a utilisé ce week-end pour la première fois un missile hypersonique dont on dit que même les Américains ne maîtrisent pas la technologie. Pourquoi a-t-il utilisé ce missile hypersonique?
Pour démontrer sa force, c'est une démonstration qui, au sens...
C'est quoi d'abord un missile hypersonique?
C'est un missile qui vole à 5 fois ou plus de 5 fois la vitesse du son et qui a des phases, qui peut esquiver les défenses et donc qui est presque invulnérable. Enfin.
Les systèmes antimissiles n'arrivent pas à l'abattre.
Aujourd'hui, c'est très difficile. Mais c'est un coup parce que en termes militaires, aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup de sens, si vous voulez.
Pourquoi il l'a fait?
Il a plein d'autres. Parce que c'est un missile dual. Il montre sa force. Il dit, je suis capable
d'atteindre. C'est un message adressé à l'Occident?
Quand même, oui, je trouve. Oui, c'est un message adressé à l'Occident.
Paris, c'est pas loin.
Il a plein d'autres missiles de croisière tirés à partir de bateaux qui font des milliers de kilomètres, qui volent quand même à 3 fois la vitesse du son. Donc, il a toute une panoplie. Seulement, ça a un coût. Et ça, c'est un vrai sujet. Il est en train quand même d'écorner. On ne connaît pas le volume de missiles exactement dont il est doté. Ces missiles, ils ont aussi des technologies. Il faut qu'ils trouvent un certain nombre de composants qu'il n'a pas forcément chez lui. Donc, il y a une limite à tout ça, me semble-t-il. Et à force de frapper, je pense que le potentiel russe est en train quand même sérieusement de s'élimer. Et il réduit la puissance, justement, pour répondre à votre question, il réduit la puissance de l'armée russe. Donc, il fragilise en quelque sorte son pouvoir. Donc là, il y a un équilibre subtil. Et ça doit particulièrement le rendre furieux, à mon avis.
Particulièrement furieux. Bernard Guetta, vous disiez tout à l'heure que Vladimir Poutine est une bête blessée. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une bête blessée. Pour Joe Biden va en Pologne. On sait que les Polonais ont 70% craignent que ce conflit ne déborde sur leur territoire. Il y a un climat ce matin dans Le Parisien. On apprend que nombre de Français veulent des... Il y a des commandes d'abris anti-atomiques. Il y a Olivier Véran, ministre de la Santé. Alors, il répond à une question dans Le Parisien. Mais enfin, il dit quand même, nous avons assez d'iode pour couvrir les besoins de la population si c'était nécessaire. On voit bien qu'il y a une anxiété en Occident de savoir jusqu'où est-il capable d'aller. Est-ce qu'il serait assez fou pour appuyer sur le bouton nucléaire?
Bon, écoutez, là, on entre dans la quasi-littérature. Mais en revanche, le général le disait très bien à l'instant. Poutine nous envoie chaque 2 jours un message sur la puissance de sa force militaire. L'usage du missile hypersonique, c'est de nous dire « il n'y a pas que le nucléaire ». Je sais bien que le nucléaire, je ne peux pas, mais regardez ce dont je dispose. Je suis terrifiant. Et il est effectivement en train de réveiller la conscience en Europe
du danger d'une guerre. Regardez, un pays comme le Danemark, qui est membre de l'Union européenne, avait demandé à ne pas participer au budget et aux activités militaires, pourtant fort réduites, de l'Union européenne. Il y a, dans un mois, je crois, ou un mois et demi, un référendum au Danemark organisé par la première ministre travailliste demandant aux Danois est-ce qu'on rejoint maintenant la construction d'une défense commune européenne. Et la réponse va être oui. Il y a deux pays, la Suède, la Finlande, qui sont totalement neutres dans l'Union européenne, qui n'appartiennent pas à l'Alliance Atlantique. Eh bien, ces deux pays fondamentalement neutres pour la Suède depuis presque deux siècles. Eh bien, ce pays, aujourd'hui, face à M. Poutine, se pose la question. Et pourquoi assiste-t-on à cette évolution des opinions et des gouvernements, naturellement? Mais parce que la politique de M. Poutine est aussi folle que celle, disons, d'un Premier ministre britannique qui, demain, se dirait « je vais reconquérir les Indes ». Ah oui, bah voilà, effectivement, les Indes, c'était l'Empire britannique. Imaginons que demain, un président de la République française, ça ne pourrait pas exister, bon, enfin, imaginons, se dise « tiens, je vais reconquérir l'Indochine, je vais reconquérir l'Afrique, je vais reconquérir le Maghreb ». Mais c'est ce que M. Poutine fait, enfin, voudrait faire. Eh bien, on appellerait ça des folies totales dans le cas de la Grande-Bretagne et de la France. J'appelle ça une folie totale dans le cas de M. Poutine.
Vous parliez de vos... Quelque chose a changé au Parlement européen, d'ailleurs. Vous parliez totalement. Des Danois qui vous ont rejoint. Il y a une famille européenne. Il a réussi, Vladimir Poutine, à souder le peuple ukrainien. Il a réussi aussi à rassembler les Européens
les États-Unis...
qui se sentent une flamme commune.
Attendez, premièrement, les États-Unis voulaient s'éloigner, presque quitter le théâtre européen. Monsieur Poutine les fait revenir, ça c'est une prouesse
Joe
pour
Biden
la diplomatie
est en Europe
russe.
Cette semaine.
Mais bien sûr, c'est extraordinaire. Mais l'évolution parmi les 27 pays membres de l'Union européenne est absolument spectaculaire. On n'a jamais vu, mais quand je dis jamais, c'est jamais de jamais, une telle unité politique entre les 27 États membres de l'Union
même
européenne.
Même si quand il s'agit de prendre des discussions, il y a les Hongrois qui disent « Ah, mais on a besoin du gaz russe, etc. »
Mais écoutez, en France, on se dispute aussi sur les politiques, mais il y a une unité nationale. Eh bien, dans l'Union européenne, évidemment qu'on se dispute. Eh ben, heureusement, d'ailleurs, ça s'appelle la liberté, ça s'appelle la démocratie. Mais il y a une unité, mais comme on n'a jamais vu.
Général Palomeros.
Oui, non, je voulais dire que pour vous rejoindre, il y a cette dimension d'une certaine autonomie stratégique européenne qui maintenant, et Dieu sait si on apprenait pour la mettre devant, et c'était difficile parce que les Européens ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Je crois que maintenant, ils vont comprendre. Et puis, il y a cette complémentarité, on va en reparler parce qu'il va y avoir un sommet de l'OTAN.
Même si cette Europe, elle est sous domination américaine. On a vu que les Allemands achètent des avions de chasse américains.
Oui, d'accord, mais ce n'est pas forcément... D'accord, ok, ça c'est... chacun va faire son marché où il le veut, c'est pas récent et ça durera. Ce qu'il faut en fait, c'est associer les valeurs communes, les intérêts communs. C'est-à-dire montrer à tous les pays européens qu'ils ont intérêt à coopérer ensemble et à faire des équipements, à développer leur industrie ensemble. Et ce que je voulais dire plus précisément, c'est ce que c'est en train de développer, c'est une très très forte adhésion et cohérence entre l'Union européenne d'un côté et l'OTAN, l'Alliance Atlantique. Et ce qu'on a,
on a souvent imaginé en concurrence. Est-ce qu'on fait allégeance à Bruxelles ou à Washington?
Si vous voulez, quand j'étais commandeur de l'OTAN, je n'ai cessé de militer, comme d'autres d'ailleurs, pour ce rapprochement en disant « Mais attendez, aujourd'hui, on a 21 pays de l'Union européenne qui font partie des 30 pays de l'Alliance. Comment peut-il y avoir une divergence ?» Et plus ces pays de l'Union européenne prendront leur poids dans l'Alliance Atlantique où ils ont toute leur place, et mieux l'Alliance Atlantique se portera. Pourquoi les Américains ont porté le poids? C'est parce que les Européens ne souhaitaient pas porter le réel poids de leur défense.
Alors, en attendant, on l'a dit, Vladimir Poutine a dans la tête ce rêve un peu fou de rassembler tous les peuples russophones et par la force, qu'on le voit en Ukraine. Vendredi dernier, il est sorti du Kremlin. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu en dehors du Kremlin. Il est allé dans un stade. C'était pour célébrer les 8 ans d'annexion de la Crimée. Il est allé haranguer son peuple devant 100 000 spectateurs. Vous allez voir, triés ou sélectionnés, on va dire. Ou triés sur le volet, en tous les cas. Sujet de Luc Lacroix.
C'est une fête ultra-patriotique dans le plus grand stade de Moscou. 95 000 personnes qui scandent « Russie, Russie ». Tout y est, les drapeaux et l'hymne national. Des athlètes, mais aussi des chanteurs célèbres ont été convoqués. chansons populaires et nostalgie de l'époque soviétique comme celle-ci, dont les paroles disent « Je suis né en URSS ». Officiellement, il s'agit de célébrer l'annexion de la Crimée il y a 8 ans. Alors qu'il n'était pas annoncé, Vladimir Poutine s'invite pour dénoncer, selon lui, un génocide dans le Donbass.
Libérer les gens de ces souffrances et de ce génocide, c'est la raison principale, le motif et le but de l'opération militaire que nous avons lancée dans le Donbass et en Ukraine.
C'est la première fois que Vladimir Poutine sort en public depuis le début de l'opération militaire. Il encense le courage des soldats russes.
Nous voyons à quel point nos gars agissent et se battent de manière héroïque au cours de cette opération. Au coude à coude, ils s'entraident, ils se soutiennent. Nous n'avions pas vu une telle unité depuis longtemps.
Le tout est diffusé sur les chaînes nationales russes, mais quelques instants avant la fin de son discours, la retransmission est soudain interrompue. Problème technique a ensuite justifié le Kremlin. Cette communication avec un grand rassemblement très encadré, très organisé, elle tranche avec celle du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui est très présent et très à l'aise sur les réseaux sociaux.
Alors Isabelle Lasserre, quelle lecture faut-il avoir de cette sortie de Vladimir Poutine et de cette interview qu'il a donnée au peuple russe avec des mots ultra-violents, hein, j'en cite quelques-uns, il a parlé de racailles, de traîtres, hein, pour ceux qui ne soutiendraient pas son opération spéciale, comme il l'appelle, d'une purification naturelle et nécessaire, hein, ça rappelle les purges staliniennes, quoi. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, au goulag, si on l'écoute.
La seule chose qui soit moderne dans ce rassemblement spectaculaire, chez Vladimir Poutine, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est la manière dont il est habillé. Avec des fringues super chic, totalement occidentales, et je crois que la veste a été évaluée sur les réseaux sociaux à 15 000 euros ou un truc comme ça. Le reste, effectivement, le discours est dans la plus pure tradition stalinienne. Alors, c'est pas nouveau chez Vladimir Poutine. Souvenez-vous, à l'époque de la Tchétchénie, il avait dit « on va aller buter ces Tchétchènes jusque dans les chiottes ». Donc, il parle toujours comme ça. Mais là, il a quand même franchi un cap supplémentaire.
Ça s'est aggravé, selon vous, cette espèce d'enfermement paranoïaque
Oui. Alors, Poutine a toujours été ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire que ses projets... sont déjà inscrits depuis très très longtemps, de même que sa personnalité et sa radicalisation. Mais ces années de pouvoir, année après année, il s'est radicalisé. Et en particulier, ces deux dernières années, où il était complètement isolé, tellement il a une peur, panique du Covid. Il a demandé à ne plus voir de nouvelles personnes, donc il est complètement recroquevillé. Et il s'est mis vraiment à croire à son discours de révisionnisme historique. Il est sans doute persuadé, Vladimir Poutine, que l'OTAN veut l'attaquer. Il est sans doute persuadé, dans sa citadelle assiégée, que la Russie va être une proie de ces démocraties qui veulent le rayer de la carte en imposant leur modèle libéral et démocratique. Alors ce discours, il veut dire quand même une autre chose aussi, notamment les attaques contre les oligarques, hein, qui reprochent en fait d'être tranquillement assis dans leur...
De manger
leur
du foie gras et des huîtres à Courchevel.
Du foie gras et des huîtres. Il révèle aussi que Poutine est extrêmement en colère contre les craquements du système, alors qu'ils sont encore superficiels. En tout cas, il est impossible d'en saisir la profondeur, mais qui existe néanmoins. Et là, il a un discours en disant « Bon, ben, je vais faire des purges. Je vais faire des purges staliniennes. C'est-à-dire que je vais éradiquer en Russie tous ceux qui ne sont pas dignes de représenter la Russie et l'Empire russe et l'URSS. » Parce que c'est ce qu'il dit aussi. On est né en URSS. C'est d'une violence incroyable. Ça explique pourquoi, il y a 4 jours, on a vu des jets privés quitter la Russie pour aller à Dubaï avec quelques oligarques, visiblement, qui partaient pendant qu'il en est encore temps.
Bernard Guetta, alors vous qui étiez correspondant à Moscou, on a l'impression que la différence du temps de l'URSS, c'est qu'il y avait un politburo, quoi. Il y avait un système un petit peu qui contrôlait. Là, est-ce qu'il est seul et seul, quoi?
Je vous suis complètement... J'ai lancé une blague hier qui était « Rendez-nous Brejnev ». Rendez-nous Brejnev, parce que Brejnev, au moins, il siégeait dans un bureau politique où il y avait, Isabelle, 10 ou 12 personnes, je crois.
Oui, qui contrôlait. Mais Bernard, si tu poses la question aux Russes aujourd'hui. C'est pas une plaisanterie. La nostalgie des Russes, c'est la période Brejnev.
Mais
pas
la stabilité qu'incarnait avec ce politburo.
Bien sûr, la stabilité. Mais aujourd'hui, Poutine est un homme qui décide totalement seul.
Et qui a perdu pied avec la réalité,
Complètement, complètement. Il a perdu contact avec la réalité, moi, je pense au CTI. Et il est très surpris, il a été très surpris, premièrement, de découvrir qu'il existait une nation ukrainienne dont il était en train de resserrer les rangs, qu'il était en train de cimenter. Mais deuxièmement, il découvre son pays. Mais imaginez bien que les gens qui ont au-dessous de 40-45 ans en Russie, ils n'ont pas vécu à l'âge adulte, je veux dire, l'Union soviétique. Ils ne savent pas ce que c'est. Et ils sont habitués à Internet, au vent de la liberté, non pas au vent de la liberté politique dans leur pays, mais par Internet, au vent de la liberté. Et M. Poutine s'imagine qu'il peut raconter des mensonges aussi, mais invraisemblables, aberrants, qu'il fait et être cru par sa population. Ce n'est pas par une partie de sa population, oui, bien sûr, mais par la Russie utile, par les jeunes gens et les jeunes femmes qui constituent l'économie et l'avenir de la Russie. Mais cet homme est totalement déconnecté. Non seulement c'est un homme du passé, mais c'est même pas un homme du XXe siècle, c'est un homme du XIXe siècle, de l'absolutisme impérial.
Général Paloméros, est-ce qu'il y a dans l'entourage de Vladimir Poutine des gens quand même qui sont un peu lucides, qui prennent peur? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des coups d'État, des coups qui se fomentent contre lui, un Brutus qui s'agit, ou est-ce qu'il est... On l'imagine qu'il est extrêmement méfiant et protégé, mais...
J'ai tendance à dire, l'espoir n'est pas une stratégie, on peut l'espérer. Mais vous savez, les coups d'État, ils arrivent, on ne les attend pas, donc... Ouais. Peut-être qu'un beau jour, on aura une divine surprise, mais il faut pas compter là-dessus. On aurait tort de penser que Poutine en est arrivé là du jour au lendemain. C'est vrai qu'il y a eu des signaux de plus en plus forts, quand même, les tentatives d'assassinat ou les assassinats, l'utilisation d'armes chimiques, voire biologiques, tout ça est bien documenté. Donc, c'est quand même une sacrée leçon, quoi, pour nous, pour l'Occident, pour l'Europe, pour l'OTAN, c'est de se dire, finalement, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas ne pas comprendre que l'évolution du monde. Ça fait des années que les militaires en particulier, mais ce n'est pas les seuls, parlent de la résurrection des États-puissance. Et moi, la question fondamentale que je me pose depuis une bonne dizaine d'années, c'est pourquoi ces États, la Russie, qui est un État, une puissance pauvre, qui n'a pas les moyens de cette politique, pourquoi la Chine en particulier mettent un tel effort dans leur défense? C'est qu'il y a des objectifs. Ils sont différents, hein, très clairement. Mais pour la Russie, on ne peut pas dire qu'on est passé totalement, on est passé en partie à côté du problème. Que pouvions-nous faire? L'histoire jugera. On a eu quand même l'avertissement de la Géorgie, qui est un avertissement terrible. Ça s'est calmé. Abkhazie, l'Ossétie du Sud, elle dit, on s'en sort, quitte. Et après, rebelote, si je puis dire, 2014.
La Syrie et la Crimée.
Et la Crimée, surtout, la Crimée et le Donbass. Et on a même entendu des gens dire, mais c'est normal, puisque ça appartient à l'Ukraine. Vous voyez, à partir du moment où on s'admet ces approximations pour un certain confort intellectuel, eh bien, voilà ce qui se passe. Et ça, c'est extrêmement important pour l'avenir. C'est comment on refait front. Et comment, alors, c'est là la question, comment on peut aider des pays qui sont en voie, en quelque sorte, de développement démocratique, et à quel moment il faut les aider, à quel moment il faut les intégrer dans un ensemble européen, quitte à prendre quelques risques, c'est vrai, et à quel moment il faut les intégrer dans un ensemble de sécurité et de défense qui s'appelle l'OTAN.
Alors, vous évoquiez le rôle de la Chine. C'est vrai qui pour arrêter Vladimir Poutine? On s'interroge sur l'attitude de la Chine qui soutient, mais pas trop. Vous voyez ce sujet de Ben Barnier et Frédéric Bonne.
C'est une petite phrase prononcée hier par le président chinois Xi Jinping lors de son entretien avec l'Américain Joe Biden.
La crise ukrainienne n'est pas quelque chose que nous souhaitons voir.
Les Chinois peuvent-ils convaincre les Russes de cesser leur offensive en Ukraine? Vladimir Poutine et Xi Jinping ont souvent mis en scène leur proximité. Vote à l'ONU, place de l'OTAN, conception de la démocratie, beaucoup de sujets les rapprochent. Mais la guerre en Ukraine pourrait changer la donne.
Si l'aventure militaire continue, il est possible que Pékin, à un certain moment donné, demande à la Russie de négocier, peut-être également de rétablir quelque part la paix en Europe pour pouvoir justement dépasser cette situation de crise qui n'arrange pas Pékin.
Car la préoccupation numéro un de Pékin, c'est l'économie. Et sur ce terrain, la Chine mène largement, deuxième économie mondiale, contre 11e place pour la Russie, frappée depuis 8 ans par des sanctions. La Russie est devenue un partenaire encombrant.
Alors Bernard Guetta, on se demande quand même de quel côté va tomber la pièce. Est-ce que la Chine va être une aide ? Ou est-ce qu'au contraire, elle va finir par se faire embrigader du mauvais côté et on va se retrouver face à un axe Pékin-Moscou?
La question est ouverte pour une raison simple. C'est que pour la Chine, d'une part, c'est un ravissement, cette crise ukrainienne. Elle ramène les États-Unis en Europe, alors qu'ils étaient en train de concentrer toutes leurs forces en Asie, c'est-à-dire contre la Chine. Alors, si vous étiez le président chinois, vous frotteriez les mains. Mais d'un autre côté, cette crise est en train de déstabiliser le monde entier et, premièrement, l'économie mondiale. Or, sans une permanence et, si possible, un développement des échanges économiques internationaux, évidemment, l'économie chinoise régresse, la croissance décroît, et à ce moment-là, une chose fondamentale est remise en question, qui est le deal entre le pouvoir chinois et la population. Ah. Et le deal, il est quoi? Vous nous laissez gouverner, on vous laisse vous enrichir. Si la population chinoise ne peut plus s'enrichir, ne voit plus son niveau de vie se développer, à ce moment-là, la stabilité politique est remise en question en Chine. Et ça, M. Xi Jinping le sait parfaitement bien. Et c'est pour ça que, comme vous le disiez à l'instant, il y a une grande question. Moi, si vous me demandez mon pronostic, ouais, je pense que les Chinois sont assez réalistes et intelligents pour penser que cette crise ne les arrange pas du tout.
Isabelle Lasserre, ce qui terrifie, on voit que tout est possible et qu'un conflit qu'on croyait inimaginable arrive. Il y en a un autre qu'on redoute, c'est la même chose, mais en Asie, avec Taïwan. Et si la Chine envahit Taïwan, ce coup-ci, les Américains, là, ils enverront les boys. Et là, c'est la Troisième Guerre mondiale.
Oui, mais alors là, il ne faut pas aller trop vite en besogne parce que Non, mais personne ne sait aujourd'hui si la crise ukrainienne joue en faveur des volontés chinoises.
Mais les Chinois regardent Taïwan, ça en disant, tiens, alors, si on fait la même chose à Taïwan, qu'est-ce qui va se passer?
Oui, alors il y a aussi l'autre théorie qui dit que la Chine a un boulevard. Moi, je pense qu'il faut faire attention avec la Chine. Il y a une question de calcul d'intérêt aujourd'hui, comme le disait Bernard Guetta, l'intérêt économique d'un côté, mais je ne sous-estimerais pas, moi, l'intérêt politique de la Chine. C'est-à-dire que la Russie et la Chine se retrouvent ensemble. Et c'est très important pour la Chine parce que c'est au-delà de défendre un modèle politique autoritaire ou dictatorial dans le monde qui fasse reculer la démocratie. C'est vraiment, ils œuvrent ensemble, main dans la main, depuis des années pour déconstruire l'ordre international et en rebâtir un qui soit plus, qui leur soit plus favorable. Donc je pense que la Chine réfléchira à deux fois avant de lâcher la Russie. D'ailleurs, le veto, on a dit, la Chine s'est abstenue au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça ne veut rien dire, c'est une abstention active. La Chine s'est régulièrement abstenue au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi ? Parce qu'elle se cache derrière le veto de la Russie. C'est la Russie qui lui permet, en fait, de... Donc elle utilise la Russie pour manifester son opposition. Donc c'est des jeux très très fins. Et pour l'instant, ce monde Russie-Chine qui agrège aussi d'autres démocraties est encore en état de constitution, et je ne sous-estimerais pas sa volonté de faire reculer les États-Unis et le modèle politique auquel ils s'opposent.
Général Palomeros, on voit que la Chine pour l'instant refuse d'aider, de fournir des armes ou des pièces détachées à la Russie.
Si elle le fait, elle le fera d'une manière discrète et difficile à prouver sans doute. Mais je crois que ce qu'il ne faut pas oublier par rapport à ce qui vient d'être dit, que je souscris totalement, c'est que le choc du 21e siècle, pour moi, reste le choc entre les États-Unis et la Chine. C'est ça qui va marquer, me semble-t-il, le 21e siècle. Alors bien sûr, la Russie veut exister là-dedans. C'est un petit peu aussi l'attitude de Poutine en disant « mais moi aussi, je suis sur la photo ». Et maintenant, l'Europe doit exister par rapport à tout ça. On en arrive toujours, si vous voulez, à cette même conclusion. Soit on vit d'une manière passive ces chocs et on les subit, soit on prend notre sort en main.
Et ben voilà, c'est sur cette conclusion que se termine cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Vous restez sur France Info. On se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée et à demain.